2-3 La barricade Saint-Antoine. Voici ce qui s'était passé. Dans cette même nuit, dès 4 heures du matin, de Flotte était dans le faubourg Saint-Antoine. Il voulait, si quelque mouvement se produisait avant le jour, qu'un représentant du peuple fût là. Et il était de ceux qui, lorsque la généreuse insurrection du droit éclate, veulent remuer les pavés de la première barricade. Mais rien ne bougea. De Flotte, seul au milieu du faubourg désert et endormi, erra de rue en rue toute la nuit. Le jour paraît tard en décembre. Avant les premières lueurs du matin, De Flotte était au lieu du rendez-vous vis-à-vis le marché Lenoir. Ce point n'était que faiblement gardé. Il n'y avait d'autres troupes aux environs que le poste même du marché Lenoir, et à quelque distance l'autre poste, qui occupait le corps de garde situé à l'angle du faubourg et de la rue de Montreuil. Près du vieil arbre de liberté, planté en 1793 par Santerre, ni l'un ni l'autre de ces deux postes n'était commandé par des officiers. De Flotte reconnut la position, se promena quelque temps de long en large sur le trottoir, puis, ne voyant encore personne venir, et de crainte d'éveiller l'attention, il s'éloigna et rentra dans les rues latérales du faubourg. De son côté, Aubry, du nord, s'était levé à 5 heures. Rentré chez lui au milieu de la nuit, en revenant de la rue Popincourt, il n'avait pris que 3 heures de repos. Son portier l'avait averti que des hommes suspects étaient venus le demander dans la soirée du 2, et qu'on s'était présenté à la maison d'en face, au numéro 12 de cette même rue Racine, chez Huguenin, pour l'arrêter. C'est ce qui détermina Aubry à sortir avant le jour. Il alla à pied au faubourg Saint-Antoine. Comme il arrivait à l'endroit désigné pour le rendez-vous, il rencontra Cournet et d'autres de la rue Popincourt. Ils furent presque immédiatement rejoints par Malardier. Il était petit jour. Le faubourg était désert. Il marchait absorbé et parlant à voix basse. Tout à coup, un groupe violent et singulier passa près d'eux. Ils tournèrent la tête. C'était un piquet de lanciers qui entourait quelque chose qu'au crépuscule, ils reconnurent pour une voiture cellulaire. Cela roulait sans bruit sur le macadam. Ils se demandaient ce que cela pouvait signifier quand un deuxième groupe, pareil au premier, apparut, puis un troisième, puis un quatrième. 10 voitures cellulaires passèrent ainsi, se suivant de très près et se touchant presque. « Mais ce sont nos collègues !» s'écria Aubry, du Nord. En effet, le dernier convoi des représentants prisonniers du quai d'Orsay, le convoi destiné à Vincennes, traversait le faubourg. Il était environ 7 heures du matin. Quelques boutiques s'ouvraient éclairées à l'intérieur et quelques passants sortaient des maisons. Ces voitures défilaient l'une après l'autre, fermées, gardées, mornes, muettes. Aucune voix n'en sortait, aucun cri, aucun souffle. Elles emportaient au milieu des épées, des sabres et des lances, avec la rapidité et la fureur du tourbillon, quelque chose qui se taisait. Et ce quelque chose qu'elles emportaient et qui gardait ce silence sinistre, c'était la tribune brisée, c'était la souveraineté des assemblées, c'était l'initiative suprême d'où toute civilisation découle. C'était le verbe qui contient l'avenir du monde. C'était la parole de la France. Une dernière voiture arriva que je ne sais quel hasard avait retardée. Elle pouvait être éloignée du convoi principal de 300 ou 400 mètres et elle était escortée seulement par 3 lanciers. Ce n'était pas une voiture cellulaire. C'était un omnibus, le seul qu'il y eut dans le convoi. Derrière le conducteur, qui était un agent de police, on apercevait distinctement les représentants entassés dans l'intérieur. Il semblait facile de les délivrer. Cournet s'adressa aux passants. « Citoyens, s'écria-t-il, ce sont vos représentants qu'on emmène. Vous venez de les voir passer dans les voitures des malfaiteurs. Bonaparte les arrête, contrairement à toutes les lois. Délivrons-les ! Aux armes ! Un groupe s'était formé d'hommes en blouse et d'ouvriers qui allaient à leur travail. Un cri partit du groupe. « Vive la République !» Et quelques hommes s'élancèrent vers la voiture. La voiture et les lanciers prirent le galop. « Aux armes !» répéta Cournet. « Aux armes !» reprirent les hommes du peuple. Il y eut un instant d'élan. Qui sait ce qui eût pu arriver ? C'eût été une chose étrange que la première barricade contre le coup d'État eût été faite avec cet omnibus, et qu'après avoir servi au crime, il ne servît au châtiment. Mais au moment où le peuple se ruait sur la voiture, on vit plusieurs des représentants prisonniers qu'elle contenait faire des deux mains signe de s'abstenir. « Hé ! » dit un ouvrier, « ils ne veulent pas !» Un deuxième reprit, « ils ne veulent pas de la liberté !» Un autre ajouta, « ils n'en voulaient pas pour nous, ils n'en veulent pas pour eux !» Tout fut dit. On laissa l'omnibus s'éloigner. Une minute après, l'arrière-garde de l'escorte survint et passa au grand trot, et le groupe qui entourait Aubry du Nord, Malardier et Cournet, se dispersa. Le café Roisin venait de s'ouvrir. On s'en souvient, la grande salle de ce café avait servi aux séances d'un club fameux de 1848. C'était là, on se le rappelle également, que le rendez-vous avait été donné. On entre dans le café Roisin par une allée qui donne sur la rue. Puis on traverse un vestibule de quelques mètres de longueur et l'on trouve une salle assez vaste, avec de hautes fenêtres et des glaces au mur. Et au milieu, plusieurs billards, des tables à dessus de marbre, des chaises et des banquettes de velours. C'est cette salle, mal disposée du reste pour une séance où l'on eût délibéré, qui avait été la salle du club Roisin. Cournet, Aubry et Malardier s'y installèrent. En entrant, ils ne dissimulèrent pas qui ils étaient. On les reçut bien et on leur indiqua une sortie par les jardins, en cas. De Flotte venait de les rejoindre. 8 heures sonnaient quand les représentants commencèrent à arriver. Bruckner, Maigne et Brillier d'abord, puis, successivement, Charamolle, Cassal, Dulac, Bourzat, Madier de Mongeau et Baudin. Bourzat, à cause de la boue, selon son habitude, avait des sabots. Qui prendrait Bourzat pour un paysan se tromperait. C'est un bénédictin. Bourzat, imagination méridionale, intelligence vive, fine, lettrée, ornée, a dans sa tête l'encyclopédie et des sabots à ses pieds. Pourquoi pas ? Il est esprit et peuple. L'ancien constituant Bastide arriva avec Madier de Mongeau. Baudin serrait la main de tous avec effusion, mais ne parlait pas. Il était pensif. « Qu'avez-vous, Baudin ? » lui demanda Aubry du Nord. « Est-ce que vous êtes triste ?»« Moi, » dit Baudin en relevant la tête, « je n'ai jamais été plus content. » Se sentait-il déjà l'élu ? Quand on est si près de la mort, toute rayonnante de gloire, qui vous sourit dans l'ombre, peut-être l'aperçoit-on. Un certain nombre d'hommes étrangers à l'assemblée, tous déterminés comme les représentants eux-mêmes, les accompagnaient et les entouraient. Cournet en était le chef. Il y avait parmi eux des ouvriers, mais pas de blouses. Afin de ne point effaroucher la bourgeoisie, on avait recommandé aux ouvriers, notamment chez Deron et Cail, de venir en habit. Baudin avait sur lui une copie de la proclamation que je lui avais dictée la veille. Cournet la déplia et la lut. « Faisons-la tout de suite afficher dans le faubourg, » dit-il. « Il faut que le peuple sache que Louis Bonaparte est hors la loi. » Un ouvrier lithographe qui était là s'offrit à l'imprimer sur le champ. Tous les représentants présents la signèrent. Ils ajoutèrent mon nom à leur signature. Aubry du Nord écrivit en tête les mots « Assemblée nationale ». L'ouvrier emporta la proclamation et tint parole. Quelques heures après, Aubry du Nord et plus tard un ami de Cournet, appelé Gay, le rencontrèrent dans le faubourg du Temple, un pot de colle à la main, et appliquant la proclamation à tous les coins de rue, à côté même de l'affiche Maupas, qui menaçait de la peine de mort quiconque serait trouvé placardant un appel aux armes. Les groupes lisaient les deux affiches à la fois. Détail qu'il faut noter, un sergent de la ligne en uniforme, en pantalon garance et le fusil sur l'épaule, accompagnait l'ouvrier et le faisait respecter. C'était sans doute un soldat sorti du service depuis peu. L'instant fixé la veille pour le rendez-vous général était de 9 à 10 heures du matin. Cette heure avait été choisie afin qu'on eût le temps d'avertir tous les membres de la gauche. Il convenait d'attendre que les autres représentants arrivassent, afin que le groupe ressemblât davantage à une assemblée et que ses manifestations eussent plus d'autorité sur le faubourg. Plusieurs des représentants déjà arrivés n'avaient pas d'écharpe. On en fit à la hâte quelques-unes dans une maison voisine avec des bandes de calicot rouge, blanc et bleu, et on les leur apporta. Baudin et de Flotte furent de ceux qui se revêtirent de ces écharpes improvisées. Cependant, il n'était pas encore 9 heures que déjà des impatients se manifestaient autour d'eux. Note. Il y eut aussi malentendu sur le moment fixé. Quelques-uns se trompèrent et crurent que c'était à 9 heures. Les premiers arrivés attendirent avec impatience leurs collègues. Ils étaient, comme nous l'avons dit, au nombre de 12 à 15 à 8 heures et demie. « Le temps se perd !» s'écria l'un d'eux à peine entré. « Mettons nos écharpes, montrons les représentants à la population. » Élevons avec elle des barricades. Nous sauverons le pays, peut-être, l'honneur du parti, à coup sûr. Allons, faisons des barricades. » Tous furent immédiatement du même avis. Un seul, le citoyen Baudin, reproduisit la terrible objection. « Nous ne sommes pas en nombre pour adopter une semblable résolution. » Mais il se rallia d'entrain au sentiment général et, la conscience tranquille, après avoir réservé le principe, il ne fut pas le dernier à ceindre son écharpe. Schœlcher, Histoire des crimes du 2 décembre, page 130-131. Fin de note. Ces généreuses impatiences, plusieurs les partageaient. Baudin voulait attendre. « Ne devançons pas l'heure, disait-il. Laissons à nos collègues le temps d'arriver. » Mais on murmurait autour de Baudin, « Non, commencez, donnez le signal, sortez. Le faubourg n'attend que la vue de vos écharpes pour se soulever. Vous êtes peu nombreux, mais on sait que vos amis vont venir vous rejoindre. Cela suffit, commencez. » La suite a prouvé que cette hâte ne pouvait produire qu'un avortement. Cependant, ils jugèrent que le premier exemple que devaient les représentants au peuple, c'était le courage personnel. Ne laisser s'éteindre aucune étincelle. Marcher les premiers, marcher en avant, c'était là le devoir. L'apparence d'une hésitation aurait été plus funeste, en effet, que toutes les témérités. Schœlcher est une nature de héros. Il a la superbe impatience du danger. « Allons, s'écria-t-il, nos amis nous rejoindront, sortons. » Il n'avait pas d'armes. « Désarmons le poste qui est là, » dit Schœlcher. Ils sortirent de la salle Roisin en ordre, deux par deux, se tenant sous le bras. 15 ou 20 hommes du peuple leur faisaient cortège. Ils allaient devant eux, criant « Vive la République ! Aux armes !» Quelques enfants les précédaient et les suivaient en criant « Vive la montagne !» Les boutiques fermées s'entr'ouvraient. Quelques hommes paraissaient au seuil des portes, quelques femmes se montraient aux fenêtres. Des groupes d'ouvriers qui allaient à leur travail les regardaient passer. On criait « Vive nos représentants ! Vive la République !» La sympathie était partout, mais nulle part l'insurrection. Le cortège se grossit peu, chemin faisant. Un homme qui menait un cheval sellé s'était joint à eux. On ne savait qui était cet homme, ni d'où venait ce cheval. Cela avait l'air de s'offrir à quelqu'un qui voudrait s'enfuir. Le représentant du lac ordonna à cet homme de s'éloigner. Ils arrivèrent ainsi au corps de garde de la rue de Montreuil. À leur approche, la sentinelle poussa le cri d'alerte et les soldats sortirent du poste en tumulte. Schœlcher, calme, impassible, en manchettes et en cravate blanche, vêtu de noir comme à l'ordinaire, boutonné jusqu'au cou, dans sa redingote serrée, avec l'air intrépide et fraternel d'un quaker, marcha droit à eux. « Camarades, leur dit-il, nous sommes les représentants du peuple, et nous venons, au nom du peuple, vous demandez vos armes pour la défense de la Constitution et des lois. » Le poste se laissa désarmer. Le sergent seul fit mine de résister, mais on lui dit « Vous êtes seul !» et il céda. Les représentants distribuèrent les fusils et les cartouches aux groupes résolus qui les entouraient. Quelques soldats s'écrièrent « Pourquoi nous prenez-vous nos fusils ? Nous nous battrions pour vous et avec vous !» Les représentants se demandèrent s'ils accepteraient cette offre. Schœlcher y inclinait, mais l'un d'eux fit observer que quelques gardes mobiles avaient fait la même ouverture aux insurgés de juin et avaient tourné contre l'insurrection les armes que l'insurrection leur avait laissées. On garda donc les fusils. Le désarmement fait, on compta les fusils, il y en avait 15. « Nous sommes 150, » dit Cournet, « nous n'avons pas assez de fusils. »« Eh bien, » demanda Schœlcher, « où y a-t-il un poste ?»« Au marché Lenoir. Désarmons-le. » Schœlcher en tête et escorté des 15 hommes armés, les représentants allèrent au marché Lenoir. Le poste du marché Lenoir se laissa désarmer plus volontiers encore que le poste de la rue de Montreuil. Les soldats se tournaient pour qu'on prît leurs cartouches dans leurs gibernes. On chargea immédiatement les armes. « Maintenant, » cria De Flotte, « nous avons 30 fusils. Cherchons un coin de rue et faisons une barricade. » Ils étaient alors environ 200 combattants. Ils montèrent la rue de Montreuil. Au bout d'une cinquantaine de pas, Schœlcher dit « Où allons-nous ? Nous tournons le dos à la Bastille. Nous tournons le dos au combat. » Ils redescendirent vers le faubourg. Ils criaient « Aux armes !» On leur répondait « Vive nos représentants !» Mais quelques jeunes gens seulement se joignirent à eux. Il était évident que le vent de l'émeute ne soufflait pas. « N'importe, » disait De Flotte, « engageons l'action, ayons la gloire d'être les premiers tués. » Comme ils arrivaient au point où les rues Sainte-Marguerite et de Côte aboutissent l'une à l'autre et coupent le faubourg, une charrette de paysans chargée de fumier entrait rue Sainte-Marguerite. « Ici !» cria De Flotte. Ils arrêtèrent la charrette de fumier et la renversèrent au milieu de la rue du Faubourg Saint-Antoine. Une laitière arriva. Ils renversèrent la charrette de la laitière. Un boulanger passait dans sa voiture à pain. Il vit ce qui se faisait, voulut fuir et mit son cheval au galop. Deux ou trois gamins, de ces enfants de Paris, braves comme des lions et lestes comme des chats, coururent après le boulanger, dépassèrent le cheval qui galopait toujours, l'arrêtèrent et ramenèrent la voiture à la barricade commencée. On renversa la voiture à pain. Un omnibus survint qui arrivait de la Bastille. « Bon, » dit le conducteur, « je vois ce que c'est. » Il descendit de bonne grâce et fit descendre les voyageurs. Puis le cocher détela les chevaux et s'en alla en secouant son manteau. On renversa l'omnibus. Les quatre voitures mises bout à bout barraient à peine la rue du Faubourg, fort large en cet endroit. Tout en les alignant, les hommes de la barricade disaient « N'abîmons pas trop les voitures ». Cela faisait une médiocre barricade, assez basse, trop courte, et qui laissait les trottoirs libres des deux côtés. En ce moment, un officier d'état-major passa suivi d'une ordonnance, aperçut la barricade et s'enfuit au galop de son cheval. Schœlcher inspectait tranquillement les voitures renversées. Quand il fut à la charrette de paysans qui faisait un tas plus élevé que les autres, il dit « Il n'y a que celle-là, de bonne. » La barricade avançait. On jeta dessus quelques paniers vides qui la grossissaient et l'exhaussaient sans la fortifier. Ils y travaillaient encore quand un enfant accourut en criant « La troupe !» En effet, deux compagnies arrivaient de la Bastille au pas de course par le faubourg, échelonnées par peloton de distance en distance et barrant toute la rue. Les portes et les fenêtres se fermaient précipitamment. Pendant ce temps-là, dans un coin de la barricade, Bastide, impassible, contait gravement une histoire à Madier de Maugeot. « Madier, lui disait-il, il y a près de 200 ans que le prince de Condé, prêt à livrer bataille dans ce même faubourg Saint-Antoine où nous sommes, demandait à un officier qui l'accompagnait « As-tu jamais vu une bataille perdue ?»« Non, monseigneur. Eh bien, tu vas en voir une. » Moi, Madier, je vous dis aujourd'hui, vous allez voir tout à l'heure une barricade prise. » Cependant, ceux qui étaient armés s'étaient placés à leur position de combat derrière la barricade. Le moment approchait. « Citoyens, cria Schœlcher, ne tirez pas un coup de fusil. Quand l'armée et les faubourgs se battent, c'est le sang du peuple qui coule des deux côtés. Laissez-nous d'abord parler aux soldats. » Il monta sur un des paniers qui exhaussait la barricade. Les autres représentants se rangèrent près de lui sur l'omnibus. Malardier et Dulac étaient à sa droite. Dulac lui dit « Vous me connaissez à peine, citoyen Schœlcher. Moi, je vous aime. Donnez-moi pour mission de rester à côté de vous. Je ne suis que du second rang à l'Assemblée, mais je veux être du premier rang au combat. » En ce moment, quelques hommes en blouse, de ceux que le 10 décembre avait embrigadés, parurent à l'angle de la rue Sainte-Marguerite, tout près de la barricade, et crièrent « À bas, les 25 francs !» Baudin, qui avait déjà choisi son poste de combat et qui était debout sur la barricade, regarda fixement ces hommes et leur dit « Vous allez voir comment on meurt pour 25 francs !» Un bruit se fit dans la rue. Quelques dernières portes restées entr'ouvertes se fermèrent. Les deux colonnes d'attaque venaient d'arriver en vue de la barricade. Plus loin, on apercevait confusément d'autres rangées de baïonnettes. C'était celle qui m'avait barré le passage. Schœlcher, élevant le bras avec autorité, fit signe au capitaine qui commandait le premier peloton d'arrêter. Le capitaine fit de son épée nue un signe négatif. Tout le 2 décembre était dans ces deux gestes. La loi disait « Arrêtez !» Le sabre répondait « Non !» Les deux compagnies continuèrent d'avancer, mais à pas lents et en gardant leurs intervalles. Schœlcher descendit de la barricade dans la rue. De Flotte, Dulac, Malardier, Brillier, Maigne, Bruckner le suivirent. Alors on vit un beau spectacle. 7 représentants du peuple, sans autre arme que leurs écharpes, c'est-à-dire majestueusement revêtus de la loi et du droit, s'avancèrent dans la rue hors de la barricade et marchèrent droit aux soldats qui les attendaient le fusil en joue. Les autres représentants restés dans la barricade disposaient les derniers apprêts de la résistance. Les combattants avaient une attitude intrépide. Le lieutenant de marine Cournet les dominait tous de sa haute taille. Baudin, toujours debout sur l'omnibus renversé, dépassait la barricade de la moitié du corps. En voyant approcher les 7 représentants, les soldats et les officiers eurent un moment de stupeur. Cependant, le capitaine fit signe aux représentants d'arrêter. Ils s'arrêtèrent en effet, et Schœlcher dit d'une voix grave « Soldats, nous sommes les représentants du peuple souverain. Nous sommes vos représentants. Nous sommes les élus du suffrage universel. Au nom de la Constitution, au nom du suffrage universel, au nom de la République, nous qui sommes l'Assemblée nationale, nous qui sommes la loi, nous vous ordonnons de vous joindre à nous. Nous vous sommons de nous obéir. Vos chefs, c'est nous. L'armée appartient au peuple et les représentants du peuple sont les chefs de l'armée. Soldats, Louis Bonaparte viole la Constitution. Nous l'avons mis hors la loi. Obéissez-nous. » L'officier qui commandait, un capitaine nommé Petit, ne le laissa pas achever. « Messieurs, dit-il, j'ai des ordres. Je suis du peuple. Je suis républicain comme vous. Mais je ne suis qu'un instrument. »« Vous connaissez la Constitution, dit Schœlcher. Je ne connais que ma consigne. Il y a une consigne au-dessus de toutes les consignes, reprit Schœlcher. Ce qui oblige le soldat comme le citoyen, c'est la loi. » Il se tournait de nouveau vers les soldats pour les haranguer, mais le capitaine lui cria « Pas un mot de plus. Vous ne continuerez pas. Si vous ajoutez une parole, je commande le feu. » « Que nous importe ? » dit Schœlcher. En ce moment, un officier à cheval arriva. C'était le chef du bataillon. Il parla un instant bas au capitaine. « Messieurs les représentants, reprit le capitaine en agitant son épée, retirez-vous ou je fais tirer. »« Tirez !» cria De Flotte. Les représentants, étranges et héroïques copies de Fontenoy, ôtèrent leurs chapeaux et firent face aux fusils. Schœlcher seul garda son chapeau sur la tête et attendit les bras croisés. « À la baïonnette !» cria le capitaine. Et se tournant vers les pelotons, « Croisez ! Hête ! Vive la République !» crièrent les représentants. Les baïonnettes s'abaissèrent, les compagnies s'ébranlèrent, et les soldats fondirent au pas de course sur les représentants immobiles. Ce fut un instant terrible et grandiose. Les sept représentants virent arriver les baïonnettes à leur poitrine, sans un mot, sans un geste, sans un pas en arrière. Mais l'hésitation, qui n'était pas dans leur âme, était dans le cœur des soldats. Les soldats sentirent distinctement qu'il y avait là une double souillure pour leur uniforme. Attenter à des représentants du peuple, ce qui est une trahison, et tuer des hommes désarmés, ce qui est une lâcheté. Or, trahison et lâcheté, ce sont là deux épaulettes dont s'accommode quelquefois le général, jamais le soldat. Quand les baïonnettes furent tellement près des représentants qu'à leur touchait la poitrine, elles se détournèrent d'elles-mêmes, et les soldats, d'un mouvement unanime, passèrent entre les représentants sans leur faire de mal. Schœlcher seul eut sa redingote percée en deux endroits, et dans sa conviction, ce fut maladresse plutôt qu'intention. Un des soldats qui lui faisait face voulut l'éloigner du capitaine et le toucha de sa baïonnette. La pointe rencontra le livre d'adresse des représentants que Schœlcher avait dans sa poche, et ne perça que le vêtement. Un soldat dit à De Flotte, « Citoyens, nous ne voulons pas vous faire de mal. » Pourtant un soldat s'approcha de Bruckner et le mit en joue. « Eh bien, dit Bruckner, faites feu !» Le soldat ému abaissa son arme et serra la main de Bruckner. Chose frappante, en dépit de l'ordre donné par les chefs, les deux compagnies arrivèrent successivement jusqu'aux représentants, croisant la baïonnette et se détournant. La consigne commande, mais l'instinct règne. La consigne peut être le crime, mais l'instinct, c'est l'honneur. Le chef de bataillon, P, a dit plus tard, « On nous avait annoncé que nous aurions affaire à des brigands. Nous avons eu affaire à des héros. » Cependant, à la barricade, on s'inquiétait, et les voyant enveloppés et voulant les secourir, on tira un coup de fusil. Ce coup de fusil malheureux tua un soldat entre De Flotte et Schœlcher. L'officier qui commandait le second peloton d'attaque passait près de Schœlcher comme le pauvre soldat tombait. Schœlcher montra à l'officier l'homme gisant. « Lieutenant, dit-il, voyez. » L'officier répondit avec un geste de désespoir, « Que voulez-vous que nous fassions ?» Les deux compagnies ripostèrent au coup de fusil par une décharge générale et s'élancèrent à l'assaut de la barricade, laissant derrière elles les sept représentants stupéfaits d'être encore vivants. La barricade répondit par une décharge, mais elle ne pouvait tenir. Elle fut emportée. Baudin fut tué. Il était resté debout, à sa place de combat sur l'omnibus. Trois balles l'atteignirent. Une le frappa de bas en haut à l'œil droit et pénétra dans le cerveau. Il tomba. Il ne reprit pas connaissance. Une demi-heure après, il était mort. On porta son cadavre à l'hôpital Sainte-Marguerite. Bourza, qui était près de Baudin, avec Aubry, du Nord, eut son manteau percé d'une balle. Un détail qu'il faut noter encore, c'est que les soldats ne firent aucun prisonnier dans cette barricade. Ceux qui la défendaient se dispersèrent dans les rues du faubourg ou trouvèrent asile dans les maisons voisines. Le représentant Maigne, poussé par des femmes effarées derrière une porte d'allée, s'y trouva enfermé avec un des soldats qui venait de prendre la barricade. Un moment après, le représentant et le soldat sortirent ensemble. Les représentants purent quitter librement ce premier champ de combat. À ce commencement solennel de la lutte, une dernière lueur de justice et de droit brillait encore, et la probité militaire reculait avec une sorte de morne anxiété devant l'attentat où on l'engageait. Il y a l'ivresse du bien, et il y a l'ivrognerie du mal. Cette ivrognerie, plus tard, noya la conscience de l'armée. L'armée française n'est pas faite pour commettre des crimes. Quand la lutte se prolongea et qu'il fallut exécuter de sauvages ordres du jour, les soldats durent s'étourdir. Ils obéirent non froidement ce qui eût été monstrueux, mais avec colère, ce que l'histoire invoquera comme leur excuse. Et, pour beaucoup peut-être, il y avait au fond de cette colère du désespoir. Le soldat tombé était resté sur le pavé. Ce fut Schœlcher qui le releva. Quelques femmes éplorées et vaillantes sortirent d'une maison. Quelques soldats vinrent. On le porta. Schœlcher lui soutenant la tête, d'abord chez une fruitière, puis à l'hôpital Sainte-Marguerite, où l'on avait déjà porté Baudin. C'était un conscrit. La balle l'avait frappé au côté. On voyait, à sa capote grise boutonnée jusqu'au collet, le trou souillé de sang. Sa tête tombait sur son épaule, son visage pâle, bridé par la mentonnière du shako, n'avait plus de regard. Le sang lui sortait de la bouche. Il paraissait 18 ans à peine, déjà soldat et encore enfant. Il était mort. Ce pauvre soldat fut la première victime du coup d'État. Baudin fut la seconde. Avant d'être représentant, Baudin avait été instituteur. Il sortait de cette intelligente et forte famille des maîtres d'école. Note. Il y a ici une erreur. Cela tient à ce que ces pages ont été écrites il y a 26 ans. Esquiros, qui connaissait Baudin, interrogé par moi, m'avait dit que Baudin avait été instituteur. Esquiros se trompait. Baudin avait été médecin. Note de l'édition Hetzel Quentin. Fin de note. Toujours persécutés, qui sont tombés de la loi Guizot dans la loi Falloux et de la loi Falloux dans la loi Dupanloup. Le crime du maître d'école, c'est de tenir un livre ouvert. Cela suffit, la sacristie le condamne. Il y a maintenant en France, dans chaque village, un flambeau allumé, le maître d'école, et une bouche qui souffle dessus, le curé. Les maîtres d'école de France qui savent mourir de faim pour la vérité et pour la science étaient dignes qu'un des leurs fût tué pour la liberté. La première fois que je vis Baudin, ce fut à l'Assemblée, le 13 janvier 1850. Je voulais parler contre la loi d'enseignement. Je n'étais pas inscrit, Baudin était inscrit le second. Il vint m'offrir son tour. J'acceptai et je pus parler le surlendemain, 15. Baudin était, pour les rappels à l'ordre et les avanies, un des points de mire du sieur Dupin. Il partageait cet honneur avec les représentants Millot et Valentin. Baudin monta plusieurs fois à la tribune. Sa parole, hésitante dans la forme, était énergique dans le fond. Il siégeait à la crête de la montagne. Il avait l'esprit ferme et les manières timides. De là, dans toute sa personne, je ne sais quel embarras mêlé à la décision. C'était un homme de moyenne taille. Sa face colorée et pleine, sa poitrine ouverte, ses épaules larges, annonçaient l'homme robuste, le laboureur maître d'école, le penseur paysan. Il avait cette ressemblance avec Bourza. Baudin penchait la tête sur son épaule, écoutait avec intelligence et parlait avec une voix douce et grave. Il avait le regard triste et le sourire amer d'un prédestiné. Le 2 décembre au soir, je lui avais demandé « Quel âge avez-vous » Il m'avait répondu « Pas tout à fait 33 ans. »« Et vous ?» me dit-il. « 49 ans. » Et il avait repris « Nous avons le même âge, aujourd'hui. » Il songeait en effet à ce lendemain qui nous attendait, et où se cachait ce peut-être qui est la grande égalité. Les premiers coups de fusil étaient tirés, un représentant était tombé, et le peuple ne se levait pas. Quel bandeau avait-il sur les yeux? Quel plomb avait-il sur le cœur? Hélas, la nuit que Louis Bonaparte avait su faire sur son crime, loin de se dissiper, s'épaississait. Pour la première fois depuis 60 ans que l'ère providentielle des révolutions est ouverte, Paris, la ville de l'intelligence, semblait ne point comprendre. En quittant la barricade de la rue Sainte-Marguerite, De Flotte alla au faubourg Saint-Marceau. Madier de Mongeau alla à Belleville. Charameau, Lémaigne se portèrent sur les boulevards. Schœlcher, Dulac, Malardier et Brillier remontèrent le faubourg Saint-Antoine par les rues latérales que la troupe n'avait pas encore occupées. Ils criaient « Vive la République !» Ils apostrophaient le peuple sur le pas des portes. « Est-ce donc l'Empire que vous voulez ?» criait Schœlcher. Ils allèrent jusqu'à chanter la Marseillaise. On ôtait les chapeaux sur leur passage et l'on criait « Vive nos représentants !» Mais c'était tout. Ils avaient soif et la fatigue les gagnait. Rue de Reuilly, un homme sortit d'une porte une bouteille à la main et leur offrit à boire. Sartin les rejoignait en route. Rue de Charonne, ils entrèrent au local de l'association des ébénistes, espérant y trouver le comité de l'association en permanence. Il n'y avait personne, mais rien n'abattait leur courage. Comme ils atteignaient la place de la Bastille, Dulac dit à Schœlcher, « Je vous demande la permission de vous quitter une heure ou deux, et voici pourquoi. Je suis seul ici à Paris, avec ma petite fille qui a 7 ans. Depuis 8 jours, elle a la fièvre scarlatine. Et hier, quand le coup d'État est arrivé, elle était à la mort. Je n'ai que 7 enfants au monde. Je l'ai quittée ce matin pour venir et elle m'a dit, « Papa, où vas-tu ? Puisque je ne suis pas tué, je vais voir si elle n'est pas morte. » 2 heures après, l'enfant vivait encore, et nous étions en séance de permanence rue Richelieu, numéro 15, Jules Favre, Carnot, Michel de Bourges et moi, quand nous vîmes entrer Dulac, qui nous dit « Je viens me mettre à votre disposition ».